Nous allons accueillir maintenant Mathieu Pernot, qui est diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, ville où il rencontre des familles tziganes, dont les Gorgones, avec lesquelles il constitue un projet photographique au long cours, qui aboutira cette année à une exposition aux rencontres internationales de la photographie d'Arles. Dans les années 2000, il développe différentes séries consacrées à l'enfermement, l'urbanisme et la question migratoire. Son travail réalisé avec Philippe Artière sur les archives de l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur sera récompensé par le prix Nadar en 2013. Il obtiendra le prix Niepce en 2014, l'année où le jeu de paume lui consacre une exposition, La Traversée, retraçant 20 ans de photographie. En 2017, il présente aux Archives nationales d'Orica Castra, œuvre constituée d'un montage de cartes postales. Le titre de son intervention est « Dialectique des formes ».
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc voilà, comme vous l'avez dit, je suis photographe et c'est en tant que photographe que je vais vous faire cette intervention en vous parlant d'une expérience bien particulière que je mène depuis un peu plus de 20 ans maintenant avec une famille. Quand j'ai préparé cette intervention, et d'ailleurs le titre que je lui ai donné ne serait plus le même aujourd'hui, au regard de ce dont je vais vous parler, mais je me suis dit qu'il était plus intéressant plutôt que de poser la question de la problématique des formes en photographie en général ou de parcourir mon travail sur les différents travaux dont certains que vous avez pu évoquer, j'ai pensé qu'il était plus intéressant de vous parler donc de ce travail que je fais, qui fait actuellement l'objet d'une exposition donc en rencontre de la photographie et qui a été publié un petit peu avant l'été. Si j'en parle, ce n'est pas évidemment parce qu'il fait l'objet d'une actualité, mais c'est simplement parce que la question des formes se pose de façon très singulière, puisqu'ici il s'agit de représenter une famille, une communauté bien vivante que j'expose et que je donne à voir de différentes façons. Alors je vous la présente, cette famille, que je rencontre en 1995, qu'on peut baisser encore un peu plus, que je rencontre en 1995 lorsque je suis étudiant à l'école de photographie d'Arles. Lorsque je les rencontre, je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas à quelle communauté ils appartiennent. C'est par la suite que je vais apprendre que ce sont des Roms qui vivent en France depuis plus d'un siècle, donc ils sont bien français. Et je vais donc mener avec cette famille une aventure dont je suis loin d'imaginer ce qu'elle va être au moment où je la rencontre. Alors c'est très important que je vous les présente, ces gens, et que vous allez comprendre à la fin de l'intervention pourquoi. Parce qu'il y a, au-delà de la forme, un vrai enjeu de nomination, de nommer ces personnes. Alors si je commence par la gauche, le petit garçon qui a sa chemise un peu sale, c'est Michael, qui se trouve à côté de Rocky, qui est l'aîné des enfants. Au centre de l'image, le père, Johnny, devant lequel se trouve sa fille, Priscilla, qui a un biberon dans la bouche. Ninaï, la mère à côté, qui tient Vanessa dans ses bras. Giovanni et Jonathan. Au moment où je les rencontre, bien sûr, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et je les photographie finalement dans une forme qui est empruntée ou assez proche de celle qui pouvait être utilisée par les ethnologues au 19e, notamment lorsqu'ils allaient photographier en Amérique, par exemple, des Indiens. Je garde une distance vis-à-vis d'eux, je leur demande de s'aligner, de se mettre les uns à côté des autres et de me regarder. Donc je rentre, je glisse progressivement dans le quotidien de cette famille, toujours un peu comme un ethnologue le ferait. Je fais des images des différents événements du quotidien. Ici, la mère qui prépare à manger le soir ou un petit peu après, le moment où ils se retrouvent tous réunis autour de la table pour dîner. Alors assez rapidement, je, rentre dans les caravanes, j'affirme ce qu'on appelle en photographie une forme documentaire. Alors qu'est-ce que c'est que la forme documentaire ? Walker Evans, photographe américain du XXe siècle, l'a un peu défini, c'est-à-dire que c'est une forme qui affirme une certaine forme de neutralité, de distance vis-à-vis du sujet. On regarde à hauteur de vue et on essaie de photographier les choses le plus simplement possible, sans effet de lumière ou de cadrage particulier. Donc j'affirme cette forme, mais il y a une question que je me pose très vite et qu'on ne peut pas ne pas se poser quand on fait face à ce genre de situation, c'est la question du sens. Qu'est-ce que ça veut dire que de photographier ces familles, d'autant plus quand la réalité du monde que l'on a en face de soi est très dure. Je ne sais pas si vous êtes attentif, alors j'évitais de le dire au début, moi, quand je faisais ces photographies, mais je peux maintenant le dire parce que le temps est passé, mais vous voyez que ces enfants portent à leur bouche un chiffon, et en fait, de façon récurrente et permanente, quasiment, au moment où je les ai rencontrés, les enfants se droguaient. Donc, la question de la forme est importante, mais il y a une autre question qui va bien au-delà de ça quand on est photographe, qui est celle de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors moi, cette question, j'ai essayé d'y résoudre à ma façon, tant bien que mal, en séparant, disons, deux questions, celle du photographe, comment faire, et celle de l'homme qui va, à côté de ma pratique de photographe, essayer d'aider autant que possible cette famille par différentes actions, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je n'en parlerai pas. Mais voilà, donc j'essaye malgré tout avec ce réel qui est difficile de lui proposer une forme, de le donner à voir. Comment je procédais à l'époque ? Eh bien, je travaillais avec un appareil Rolleiflex 6-6, donc argentique bien sûr. Et quand je mettais une pellicule dans l'appareil photographique, je pouvais faire 12 images, 12 photographies. Mais entre la première image que je faisais et la 12e, il pouvait quelquefois passer quelques minutes, en tout cas suffisamment de temps pour qu'il se passe des choses que je n'avais pas prévues et qui, pour moi, commençaient à devenir intéressantes. C'est le cas ici, avec cette situation assez étrange, où on a l'impression que la mère, Nina, va arracher la tête de cet enfant. Vous voyez au deuxième plan de l'image la mère inquiète qui regarde ce qui est en train de se passer et la présence de tous ces personnages dans l'image. Alors, il y avait une autre forme pour moi qu'il était important de convoquer, en tout cas à laquelle je ne voulais pas tourner le dos, c'était toutes ces pratiques photographiques auxquelles ces communautés ont dû faire face, ces formes, ces usages de la photographie, notamment tout ce qui concerne la photographie signalétique, photographie de fichage, photographie de contrôle. Et donc, j'ai réalisé un certain nombre de portraits qui pouvaient directement évoquer ces pratiques photographiques. Vous voyez notamment ici cette image de Jonathan que je fais poser avec ce mur derrière, mur sur lequel vous verrez apparaître des espèces d'impacts de chaque côté du corps et au-dessus de la tête, une espèce de trait inquiétant qui semble être sur le point d'aller vers le visage du modèle. Ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, évidemment, c'est de ne pas prendre ce modèle policier, enfin, cette forme policière comme modèle, mais simplement de la citer pour essayer de la retourner et de provoquer chez le modèle un état de résistance à cette photographie, comme s'il ne voulait pas se laisser enfermer dans la case photographique dans laquelle on le met. Des photographies de face, des photographies de profil aussi, un double profil ici, avec Jonathan qui parle avec son père, Johnny. Et toujours avec cette présence du mur, cette fois deux sœurs, Vanessa et Priscilla, voilà, qui semblent vouloir se soustraire à mon regard, se cacher et ne rien livrer de leur image. Donc quand je commence ces toutes premières images, il était important pour moi vraiment de poser la question du statut de l'image, de l'héritage photographique qui était lié à la représentation de ces communautés. Et il peut arriver quelquefois, quand on est photographe et qu'on photographie une famille, un groupe, que les images que l'on fait ne plaisent pas forcément à ceux qu'elles représentent. Et ça a été le cas avec cette famille où, assez rapidement, ils m'ont expliqué qu'ils trouvaient que mes photos étaient un peu désuées, un peu tristes. Déjà, elles étaient en noir et blanc et ça aurait été mieux de les faire en couleur. Et puis ils m'ont aussi surtout dit que mes photos leur étaient complètement inutiles, ça ne leur servait à rien. Alors je les ai pris au mot et je leur ai proposé de leur faire des photographies qui soient véritablement utiles, en couleur. Et donc je leur ai proposé d'emmener les enfants dans la cabine du photomaton. Donc il y avait pas très loin du terrain où se trouvaient les caravanes une cabine de photomaton. Et le deal que j'avais avec cette famille, c'est que donc je payais les photomatons, et donc vous savez, c'était l'époque des vrais photomatons qui étaient des Polaroids qu'on ne choisissait pas, enfin l'image sortait telle qu'elle était. Il y avait quatre photographies différentes. On coupait la barre en deux, je gardais deux images, ils en gardaient deux, et c'est comme ça que les choses se faisaient. Il se trouve que ce sont quand même des drôles de photographies d'identité et qu'à aucun moment ces images vont pouvoir avoir un usage qui était censé être le leur, c'est-à-dire de donner à voir l'identité de ces enfants, puisque les enfants rigolent, pleurent, font la grimace, mais d'une certaine façon détournent complètement l'usage et la forme du photomaton, qui est vraiment le dispositif normatif absolu de la photographie. Même distance, le même fond, le flash pour tout le monde. Et c'est une image qui est censée comme ça un peu écraser le visage de ceux qui sont photographiés. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui se passait, une résistance en fait à cette norme, à ce regard. Et c'était une des choses qui m'intéressait précisément avec ces enfants qui vivaient hors cadre social, qui n'avaient pas de papier d'identité, qui n'étaient pas scolarisés, de voir ce qui pouvait se passer quand on les confrontait à ce dispositif. Avec toujours, bien sûr, l'héritage iconographique dans la tête, le fait de citer quelquefois des images tragiques de l'histoire, notamment des images qui ont été réalisées sur ces enfants dans les camps en Allemagne, peu de temps avant qu'ils soient exterminés. Alors ça, c'est une forme, hein, le photomaton. C'est une forme, d'une certaine façon, qui vient à la demande des parents et aussi parce que moi, je me dis que c'est sans doute intéressant de faire rentrer ces enfants dans ce dispositif-là. Et puis, il y a aussi des fois des formes qui surgissent d'elles-mêmes, des formes que l'on n'attend pas. Et quand on est photographe, moi, j'aurais tendance à dire que tout l'art du photographe, c'est d'être capable de se saisir, de voir ces formes qui, à un moment, jaillissent d'elles-mêmes. Et le moment où je suis avec Michael, donc vous voyez ici dans la cabine du photomaton, il pose quelques instants, et puis à un moment, il trouve qu'il a trop chaud, il se met torse nu. Il sort de la cabine, et au moment où il sort de la cabine, donc il se suspend à la tringle du photomaton, et là, je vois une espèce d'expression très forte, un peu tragique aussi, de ce corps suspendu, crucifié, écorché, enfermé dans cette boîte, mais d'un corps qui affirme avant tout une vitalité absolue, hein, comme si il essayait de résister, encore une fois, au cadre qui se trouve autour de lui. Donc ça, alors je vous le montre sous forme d'image projetée, mais vous le verrez à la fin, je vous montrerai quelques reproductions de l'exposition qui est présentée à Arles en ce moment. Ce sont des tirages qui sont montrés à l'échelle 1, donc quand vous êtes dans l'exposition, vous avez vraiment la présence de ce corps dont vous avez quelquefois l'impression qu'il pourrait sortir de l'image, tellement il est là. Alors Priscilla, qui elle, manifestement, ne veut toujours pas se montrer, c'est la même enfant qui se cachait tout à l'heure avec le mur derrière elle. Donc ça, c'est la photographie que je fais à l'extérieur du photomaton. Et ça, c'est le photomaton qui correspond à l'image que l'on a vue. Et donc quand je fais ces deux images, me dit qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui est peut-être un vrai enjeu esthétique par rapport à la représentation de ces communautés, c'est qu'il est possible d'avoir, d'une même situation, deux points de vue complètement différents et deux images différentes, et que, dorénavant, il fallait peut-être travailler sur cette complexité et le fait de démultiplier comme ça les regards sur une même situation. Donc Priscilla se cache le visage, elle ne veut pas voir quelque chose, elle ne veut peut-être pas se révéler en image, ou peut-être tout simplement qu'elle ne veut pas voir ni entendre parler de l'histoire de cet homme, qui est son grand-père, Bichika Gorgon, que je rencontre quelques mois après avoir rencontré cette famille, et cet homme me raconte son histoire tragique, et notamment le fait que pendant la guerre, il a été déporté en Allemagne et qu'il a perdu quasiment l'intégralité de sa famille dans les camps. Et donc, à partir du moment où j'entends cette histoire, je comprends aussi que tous les gens que je vois ne sont vivants que parce que le grand-père a miraculeusement survécu. Et cela va considérablement changer ma façon de les photographier. Je discute avec le père, qui me montre un document d'archives. Et là, je découvre encore une fois un nouvel objet qui va me fasciner, qui est une espèce d'objet usé, abîmé, mais qui a la beauté des vieux parchemins, et qui est surtout chargé d'histoire. Sur cet objet, je vais chercher le visage de Bichika Gorgon. Donc voilà, vous avez compris, hein, c'est le patriarche de cette famille. Et encore une fois, je suis fasciné par cette image. Je trouve qu'elle a à la fois la pauvreté de la photographie d'identité, du document d'archives, et en même temps, elle a la beauté des peintures flamandes. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne comme un appel dans cette archive. Et à partir de ce moment-là, donc les archives vont aussi, l'usage des archives vont également constituer une forme nouvelle dans le travail que je vais mener avec cette famille. Donc je refotographie Bichika Gorgon. Cette image est faite à peu près 50 ans après le portrait que vous avez vu tout à l'heure. Et là, pour moi, il y a comme un vertige en fait entre ces deux visages, entre ces deux représentations de cet homme. Et je me dis qu'il est sans doute intéressant de travailler sur ce temps long et sur ces formes différentes qui permettent peut-être de reconstituer une narration par l'image photographique. Et je me dis que c'est peut-être d'autant plus important que je me rends compte qu'en fait, les membres de sa famille, c'est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants, ignorent quasiment l'histoire du grand-père et que l'histoire vécue par les gens dans cette communauté, dans cette famille, disparaît au fur et à mesure que les gens eux-mêmes disparaissent. Et donc quand je le photographie à la fin de sa vie, malade, sur un lit d'hôpital, je me rends compte en fait que le récit de cette histoire, de l'histoire des camps, la mémoire de cette histoire va sans doute disparaître avec lui. Et pourtant, j'ai l'impression que cette histoire, en fait, elle est jamais loin, comme si symboliquement, elle se réactualisait sous mes yeux. Je vous montre ici une série que j'ai réalisé dans des wagons, dans des trains de marchandises à Arles. En fait, le terrain où se trouve la famille se situe à proximité de la gare d'Arles. À l'époque, les enfants allaient jouer dans ces wagons. Et donc, quand je vois cette image, j'ai vraiment l'impression, effectivement, qu'il y a quelque chose, une espèce de déterminisme terrible qui se rejoue. Et là, j'accepte de faire des photographies beaucoup plus lyriques, moins en distance, qui peuvent même quelquefois évoquer peut-être une tradition picturale, dans la peinture religieuse notamment. Malgré tout, toujours en affirmant quand même une espèce de distance, ou en tout cas sans me priver des fois de montrer des choses qui montrent que c'est avant tout une mise en scène. Vous voyez que la petite fille tient entre ses bras une cellule d'appareil photo. En fait, c'est moi qui ai oublié ma cellule quand j'ai fait la photo. Elle joue avec. Je pourrais très bien l'enlever pour le tirage, mais finalement, je trouve que c'est intéressant aussi d'énoncer le fait que c'est avant tout une photographie qui est mise en scène, qui est réalisée. Voilà, je vais aller un peu vite. Je vous montre quelques photographies que je fais donc à ce moment-là, toujours donc dans cette tradition documentaire. Donc c'est toujours, je ne travaille qu'avec une famille, hein, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous ne voyez que les deux mêmes parents et les six enfants. Là, c'est une photographie qui est faite à l'hôpital d'Avignon, où j'accompagne Rocky un jour où il était malade. Et à la fin du livre, il y avait une chose qui était importante, et c'était avant tout cela que je voulais communiquer, qui était finalement la vie, la présence de la vie, malgré tout. Et donc, il y a une série où l'on voit la mère Ninaï en train d'accoucher à l'hôpital d'Avignon. Voilà, et donc ça c'est le premier livre que je fais, qui s'appelle Le Tzigan, qui se terminait comme ça par une série de photographies de femmes avec des enfants. Et j'ai eu l'impression en fait que j'étais allé au bout d'une histoire humaine, mais aussi d'une histoire photographique, et que voilà, il fallait arrêter. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de les photographier pendant plusieurs années, et j'ai commencé un autre travail, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais qui faisait référence à l'architecture des prisons, la question du panoptique, hein, comment l'espace de la prison est aussi un dispositif optique, tel qu'il est pensé par les architectes. Et au moment où je faisais des photographies dans la prison d'Avignon, donc trois ans après ces premières séries, le père de cette famille, Johnny, était incarcéré dans cette prison. Et au moment où je me trouve dans le chemin de ronde de la prison d'Avignon, à un moment j'entends des hurlements au-dessus de ma tête, et qui je vois crier pour communiquer avec son père, ses enfants, que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Et donc je retrouve les enfants dont je vous ai montré des photographies en noir et blanc, que je photographie à nouveau trois ans après, mais dans une nouvelle série qui va s'appeler Les Hurleurs, dans laquelle je ne vais pas les identifier comme étant Michael, Jonathan, Giovanni, mais simplement Les Hurleurs, une série dans laquelle il y aura pas que qui seront photographiés. Mais vous voyez, donc à ce moment-là, du coup, surgit encore une fois une nouvelle forme, en couleur cette fois, une photographie qui semble très mise en scène alors que la situation est bien réelle, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en train de communiquer avec leur père à ce moment-là. Et voilà, et là, cette fois, pour de bon, enfin c'est ce que je crois à ce moment-là, l'histoire s'arrête. C'est le moment aussi où je déménage à Paris, et pendant plus de 10 ans, on ne va plus se voir, et je ne vais produire aucune photographie d'eux. Enfin, on ne se voit plus, on reste en contact, mais en tout cas, j'arrête de les photographier. Et au début des années 2010, je me dis qu'il serait peut-être intéressant de continuer cette histoire, de voir jusqu'où elle peut mener, quelles sont les nouvelles formes que je pourrais lui donner. Et donc, je décide de retourner à Arles, et je retrouve, alors là, vous allez voir, Jonathan, 10 ans après, je les retrouve... Voilà, non pas tels qu'ils étaient, puisque évidemment 10 ans c'est beaucoup dans l'histoire d'une vie, surtout dans ces communautés. Mais en tout cas, je les retrouve très simplement et j'essaye de faire des photographies, cette fois qui sont peut-être un peu débarrassées de tous ces questionnements politiques que je pouvais avoir avant. Et je les photographie simplement comme des proches. La mère, Ninaï, magnifique odalisque. Alors bien sûr, il y a une vraie complicité, hein, c'est-à-dire que je... On s'amuse ensemble, hein, c'est avant tout de cela dont il s'agit. Les corps ont changé pour certains d'entre eux. Rocky, qui était le petit garçon qui était à l'hôpital tout à l'heure. Alors certains s'en sortent mieux que d'autres. Lui, c'est Michael, donc c'était le garçon qui était suspendu à la barre du photomaton. Alors Priscilla qui continue de se cacher le visage, hein, c'est-à-dire que le temps n'a pas eu d'effet sur sa timidité et sur sa volonté de rester cachée. Anna, qui est l'enfant qu'on voyait naître dans la série sur l'accouchement de la mère. Et une nouvelle tête que je vois apparaître, Dustin, qui est née après mon départ. Et voilà, Dustin qui, comme vous pouvez le voir, a le sens de l'accueil. Voilà comment je l'ai rencontré la première fois. Et donc, quand je vois ces photographies, je me dis que, en fait, il y a une espèce de vide entre les premières images faites entre 1995 et les années 2000 et celles que je fais après. Et à ce moment-là, je leur demande si eux n'ont pas produit des photographies qu'ils pourraient peut-être me confier. Et heureusement, l'un des enfants s'était marié avec une personne qui était assez soucieuse de la photographie, qui avait conservé dans un sac un certain nombre d'archives photographiques qu'elle me confie. Et là, donc, je découvre, dans un autre usage de la photographie, ce qu'a été la vie des Gorgans pendant les 10 ans où je n'étais pas avec eux. Et là, on retrouve, alors, d'une certaine façon, des images qui constituent le contrepoint de ce que je pouvais faire, puisque, malgré tout, malgré ma proximité, je suis resté quelqu'un d'extérieur à la famille, et là, je découvre des images faites de l'intérieur, des événements classiques que l'on photographie, le mariage de Jonathan, les anniversaires... une partie de billard. Et là, je me dis que cette série est très importante parce qu'elle permet effectivement, de redonner un peu de la complexité sur le regard porté sur cette famille. Les Tziganes ont bien souvent été victimes d'espèces de caricatures, de représentations, d'archétypes. On les a toujours montrés de points de vue très différents, mais souvent avec un seul point de vue, qui pouvait être celui du folklore, celui de la musique, celui de la misère sociale. Et ce que je trouvais intéressant ici, c'était d'essayer de travailler cette complexité et d'essayer d'en produire un montage différent avec une forme nouvelle qui apparaît dans les années 2000-2010, qui est voilà, le fameux selfie, qui n'existait pas, bien sûr, au moment où je l'ai photographié. Et des fois, des formes très, très étranges qui surgissent. Vous voyez cette photographie qui est prise le jour d'un incendie. On a l'impression que ça brûle tellement que l'image elle-même finit par brûler. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis qu'il est peut-être possible de reconstruire un récit chronologique, un peu comme on le ferait dans un album de photos, un récit qui va traverser toutes les formes utilisées pour raconter l'histoire de cette famille, mais qui va permettre comme ça de voir les gens photographiés dans le temps. Alors, je vais vous montrer deux séquences, une sur Giovanni, que vous voyez à droite. Là, nous sommes en 1995, 96. 97, 2001, 2007, 2009, 2012. Alors on ne voit pas très bien Giovanni, mais il tient sa fille dans ses bras, dans sa main. Et 2015. Autre série que je vous montre, celle du père, Johnny, qui, alors lui, avait même gardé des archives photographiques avant que je le rencontre. Donc, on est dans une temporalité qui est encore plus grande. Enfant, il faisait aussi des photomatons, donc vous voyez, j'ai rien inventé avec eux. Polaroid. Alors, Johnny a toujours une grande passion pour les voitures. Là, c'est une photographie que je réalise, donc quand je le rencontre en 1995. Là, c'est une image qui est intéressante. En fait, c'est toute une série où on les voit s'embrasser dans la caravane. Il y a une espèce de moment heureux. Et alors, quand je les ai interrogés en fait, sur ce qu'était ce moment heureux, c'est le moment où le père est sorti de prison, il retrouve sa famille. Et là, je me dis, tiens, c'est vraiment très intéressant. On a deux points de vue très différents, celui des hurleurs au moment de l'incarcération et leur point de vue à eux au moment où le père sort de détention. Ça, c'est quand je le retrouve. Voilà, ça c'est la forme que j'utilise pour le montrer dans le livre qui a été publié. Donc c'est une, enfin, il faudrait que vous voyiez le livre, l'objet, sa matérialité. Vous ne voyez que les images. Mais il y a une autre forme qui est pour moi au moins aussi importante, qui est celle que j'utilise quand je le montre en exposition. Et alors là, je déconstruis le rapport chronologique des photographies. Et je fais s'entrechoquer ces formes différentes qui ont été réalisées pendant toutes ces années. Et je crée un espèce de montage, une constellation, un nuage, qui permet comme ça, sur un même mur, de concentrer en fait énormément de points de vue différents sur chacune de ces personnes. Donc l'exposition qui est à Arles en fait, est constituée de 10 murs. Il y a les deux parents et les 8 enfants. Chacun d'entre eux occupe un mur. Alors vous voyez par exemple ici comment je peux monter. Il y a l'idée du dialogue, hein, des images, le petit photomaton de Priscilla qui se cache, le grand photomaton vu l'extérieur où elle se cache encore, l'image couleur où je la retrouve, elle est toujours dans ce geste-là, et des enfants d'elle, elle a toujours été une mère à l'enfant, Priscilla, même quand elle était petite fille, qu'elle avait une poupée sur ses genoux, ou quand je la retrouve quelques années après, qu'elle se fait des selfies avec ses enfants. Et voilà, je vais terminer là-dessus avec, sur le mur de droite, un ensemble qui parle donc, enfin qui montre Rocky, qui est donc l'aîné des enfants. Et vous le voyez peut-être pas très bien sur ce montage, mais la photo couleur, pas le portrait, mais la photo qui est à gauche, en fait, c'est une photographie de sa tombe, puisque Rocky est décédé lorsqu'il avait 29 ans. Et au moment où il a été enterré, sa famille m'a demandé s'il était possible de se servir de mes photographies pour en faire des portraits funéraires. Donc les deux photos que vous voyez là, en fait, ce sont des portraits que j'avais faits peu de temps avant. Et d'une certaine façon, cet usage de la photographie boucle un peu toutes ces approches, toutes ces pratiques que j'ai pu avoir. Et le cimetière d'Arles commence à devenir en fait le lieu où j'ai de façon permanente et visible plus de photographies, puisque ces images occupent de plus en plus de place sur cette tombe. Et vous voyez qu'entre cette première image que je fais en 1995 et la dernière image que je fais de sa tombe, il y a eu toute une aventure des formes, mais qui n'est pas grand-chose à côté de l'aventure humaine que ça a été, sauf que c'est précisément cette aventure humaine qui a rendu possible pour donner à voir cette famille. Merci.